Lizzie présente La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, lu par Jean-Paul Bord. Le carré d'herbe qui bordait la prison dans la ruelle à laquelle celle-ci avait donné son nom se trouvait occupé certains matins d'été, d'il y a bien 2 siècles, par un assez grand nombre d'habitants de Boston qui tenaient leur regard intensément braqué sur la porte de chêne bardée de fer. Parmi toute autre population ou à une période plus tardive de l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, la rigidité farouche qui pétrifiait la physionomie barbue de ces bonnes gens eût fait présager qu'ils se préparaient quelque sinistre affaire. Elle n'eût signifié rien de moins que l'attente de l'exécution de quelque coupable notoire, touchant lequel la sentence d'un tribunal légal n'avait fait que confirmer le verdict de l'opinion publique. Mais, en cette précoce sévérité du caractère puritain, on ne pouvait tirer aussi indubitablement une conclusion de ce genre. Peut-être s'agissait-il d'un esclave paresseux ou d'un enfant indocile, livré par ses parents à l'autorité civile et qui était sur le point de subir la correction du fouet, d'un antinomien, d'un quaker, ou de tout autre sectateur d'une religion hétérodoxe qu'on allait flageller et chasser de la ville, ou encore de quelque indien oisif et vagabond que l'eau de feu de l'homme blanc avait rendu turbulent sur la voie publique et qu'on allait refouler à coups de lanière dans l'ombre de la forêt. Il se pouvait aussi qu'une sorcière comme la vieille dame Hibbins, la cariâtre veuve du magistrat, eût atteint le moment de mourir sur le gibet. Chacune de ces circonstances eût commandé à peu de choses près la même solennité d'attitude de la part des spectateurs. Comme il convenait à un peuple chez lequel la religion et la foi, à la vérité presque identique, s'étaient l'une et l'autre si parfaitement fondues à leur substance, que les mesures publiques de discipline, les plus bénignes comme les plus rigoureuses, revêtaient tout un caractère également redoutable et sacré. Mince et froide en vérité, la sympathie qu'un transgresseur pouvait attendre sur l'échafaud de tels spectateurs. D'autre part, une pénalité qui, de nos jours, n'irait point sans un ridicule infamant et moqueur, était alors investie d'une dignité presque aussi austère que la peine de mort elle-même. C'était un fait à noter, en ce matin d'été où commence notre histoire, que les femmes dont on voyait plusieurs dans la foule semblaient prendre un intérêt particulier au châtiment qui, quel qu'il dût être, allait être publiquement infligé. L'époque n'était point si raffinée qu'un sentiment de convenance retint les porteuses de jupes et de vertus gadins de s'avancer sur la voie publique et d'insérer leurs assez volumineuses personnes, si l'occasion s'en trouvait dans les rangs les plus proches de l'échafaud lors d'une exécution. Moralement, aussi bien que matériellement, il y avait une fibre plus grossière chez ces matrones et ces jeunes filles, qui procédaient de la vieille Angleterre par leur naissance et leur éducation, que chez leurs belles descendantes séparées d'elles par 6 ou 7 générations. Car tout au long de cette chaîne héréditaire, chaque mère a transmis successivement à sa fille une roseur plus légère, une beauté plus délicate et plus brève, et une charpente plus frêle, sinon un caractère moins robuste et moins résistant que les siens propres. Les femmes qui se tenaient à présent devant la porte de la prison n'étaient point séparées d'un demi-siècle du temps où la masculine Elisabeth aurait pu être considérée comme assez représentative de son sexe. Elles étaient ses compatriotes. Et le bœuf et la bière de leur terre natale, ainsi qu'un régime moral tout aussi peu raffiné, entraient largement dans leur composition. Le brillant soleil du matin, en conséquence, brillait sur de larges épaules et sur des bustes abondants et sur des joues rondes et vermeilles, qui, mûries dans l'île lointaine, n'avait guère encore eu le temps de pâlir ou de s'amenuiser dans l'atmosphère de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait, par surcroît chez ces matrones, comme le semblait être la plupart d'entre elles, une hardiesse et une rondeur de langage qui nous feraient sursauter aujourd'hui, tant par la teneur du discours que par le volume de la voix. « Bonne femme, dit une quinquagénaire au trait dur, je m'en vais vous dire mon avis. » Ce serait pour le plus grand bien public si l'on s'en remettait à nous, femmes d'âge mûr et fidèles de bon renom, pour trancher le cas de criminels comme Esther Prynne. Qu'en pensez-vous, mes commères? Si la friponne avait passé en jugement devant nous 5, ici rassemblés, s'en serait-elle tirée avec la sentence qu'ont rendue les dignes magistrats? Parbleu, je ne le crois guère. On assure, dit une autre, que le révérend Dimmesdale, son dévot pasteur, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale ait éclaté dans sa congrégation.
Les magistrats sont des gentilshommes pénétrés de la crainte de Dieu, mais trop enclins à la miséricorde. Voilà la vérité !» ajouta une troisième matrone sur le déclin. « À tout le moins, ils auraient dû flétrir au fer rouge le front de Esther Prynne. Madame Esther aurait bronché, alors, je vous le garantis. Tandis qu'elle ne se souciera guère de ce qu'ils lui appliqueront au corsage. Vous verrez qu'elle vous le couvrira d'une broche ou de tout autre ornement païen et qu'elle s'en ira par les rues plus fière que jamais. »
« Oh, mais, » intervint plus doucement une jeune femme qui tenait un enfant par la main, « elle aura beau couvrir la marque comme elle voudra, la brûlure sera toujours là dans son cœur. »«
Que parlons-nous de marque et de flétrissure sur son corsage ou sur son front même ?» s'écria une autre femme, le plus laid comme le plus impitoyable de ces juges improvisés.
« Cette femme a attiré la honte sur nous toutes, elle doit mourir. N'y a-t-il pas une loi pour cela ?» Oui, en vérité, aussi bien dans l'Écriture que dans le Code. Dès lors que les magistrats qui ont rendu cette loi sans effet se félicitent si leur propre femme et leur propre fille tournent mal.
Miséricorde, ma commère, s'écria un homme dans la foule, n'y a-t-il donc point de vertu dans la femme, hors celle que dicte la sainte traîne du gibet? C'est la plus dure parole qui ait été encore prononcée. Allons, faites silence à présent, car la clé est en train de tourner dans la serrure, et voici venir Madame Prynne elle-même. La porte de la prison ayant été grande ouverte de l'intérieur, on vit paraître tout d'abord, telle une ombre noire qui eut émergé au soleil, la grisâtre et sinistre silhouette du prévôt, l'épée au côté et la baguette officielle à la main. Ce personnage représentait par son aspect même toute la triste sévérité du code de loi puritain qu'il avait mission d'exécuter en les appliquant de la façon la plus finale et la plus concrète aux coupables. Tenant la baguette officielle de la main gauche, il appuyait sa main droite sur l'épaule d'une jeune femme qu'il entraînait ainsi de l'avant. Mais quand ils eurent atteint le seuil de la prison, elle le repoussa par un geste empreint de dignité naturelle et de force de caractère et s'avança à l'air libre comme de son propre mouvement. Elle portait dans les mains un enfant, un bébé de 3 mois peut-être, qui clignait des yeux et détournait son petit visage de la clarté trop vive du jour, car son existence ne lui avait jusqu'alors fait connaître que le gris crépuscule d'un cachot ou de quelque autre appartement obscur de la prison. Lorsque la jeune femme, la mère de cet enfant, se trouva pleinement exposée à la foule, il sembla que son premier mouvement fut de serrer étroitement le marmot contre son sein, non tant par un mouvement d'affection maternelle que pour dissimuler certaines marques brodées sur ou attachées à son vêtement. L'instant d'après, cependant, jugeant avec raison que l'un des deux signes de sa honte servirait médiocrement à cacher l'autre, elle prit le bébé sur son bras et, rouge de honte, mais avec un sourire hautain et un regard indompté, considéra à la ronde ses concitadins et voisins. Sur le corsage de sa robe, en belle étoffe rouge, et entourée de toutes parts de broderies élaborées et de fantastiques fioritures de fil d'or, apparaissait la lettre A. Elle était œuvrée avec tant d'art, tant de somptuosité et un tel luxe d'imagination qu'on eût dit d'un ornement qui mettait la dernière touche aux vêtements de la coupable. Vêtements dont la splendeur, bien que répondant au goût de ce temps, outrepassait de beaucoup les limites des lois somptuaires de la colonie. La jeune femme était grande, avec une silhouette d'une parfaite élégance. Elle avait des cheveux bruns et abondants, si soyeux qu'ils reflétaient la lumière du soleil, et un visage qui, outre la beauté de ses traits réguliers et l'éclat de son teint, frappait par son front prononcé et ses profonds yeux noirs. Elle avait aussi une allure seigneuriale, à la manière de la noblesse féminine de ce temps, c'est-à-dire caractérisée par un certain port et une certaine dignité, plutôt que par la grâce délicate, évanescente et indescriptible qui en est aujourd'hui reconnue pour l'indice. Non, jamais Esther Prynne n'avait eu l'air plus seigneurial, selon l'ancienne interprétation de ce terme, qu'à l'instant où elle sortit de la prison. Ce qu'il avait connu auparavant et qui s'était attendu à l'avoir terni et comme obscurci par un nuage de désastre, furent surpris et même stupéfaits de voir sa beauté resplendir et se faire un halo de l'infortune et de l'ignominie qui l'entourait. Il est vrai qu'un observateur sensible y eût peut-être discerné quelque chose de suprêmement douloureux.